Monsieur le maire.
Monsieur le maire d'une commune rurale va à la rencontre de deux de ses administrés. Quoi de plus normal ? C'est soit pour quérir leur vote lors de l'élection, soit pour leur annoncer un projet qui les concerne. Leur annoncer, car rares sont les projets à l'initiative des citoyens, hélas.
Oh, mais vous vous embêtez pas, hein ? La main sur l'apéro alors qu'il n'est même pas midi. C'est donc par là qu'elle passe, la retraite des vieux travailleurs.
Des prodigieuses.
Vous voulez pas trinquer avec nous?
Ma foi, c'est pas ton fût.
Le terrain d'entente est vite trouvé, surtout dans La Soupe aux Choux, le film de Jean Giraud, adapté du fort bon roman de René Fallet, paru l'année précédente en 80. Bonjour et bienvenue dans cette 13e visite de la saison 9 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, c'est donc une première visite autour de la figure du maire et de la mairie. Cela commence souvent par rassembler ses ouailles, les habitants, autour d'un projet fédérateur. Ainsi, dans La femme du boulanger, le film de Pagnol d'après Jeannot, sorti en 1938.
Avis à la population! Monsieur le marquis Constant de Venelle a l'honneur d'informer la population qu'une grande assemblée générale sera tenue aujourd'hui dimanche à 2h au moins le quart, dans la salle du cercle. On y discutera de la situation générale du village et de ses environs en ce qui concerne le pain. On essaiera de trouver en commun une solution à la tragédie qui menace d'affamer toute une population laborieuse et qui constitue un véritable attentat contre la morale et le ravitaillement. Signé Marquis Castan de Vanel. Post-scriptum. Monsieur le curé, monsieur l'instituteur, monsieur le marquis et monsieur le boulanger assisteront à ces débuts, à ces débats.
Bref, les notables sur l'estrade, le bon peuple assis dans l'assistance et le tout pas bien loin du bar, 6 au fond de la dite salle. Le marquis se trouve être le maire, comme dans bien des communes, parfois encore aujourd'hui, en Sarthe, il me semble, ici investi par le charpentier Fernand Charpin et le boulanger est tout pétri d'amour et de bonhomie par l'inégalable Rému.
Et pour me résumer, mes chers amis, je dis que nous n'avons qu'une solution. Nous avons le devoir d'oublier les haines familiales qui nous séparent les uns des autres. Nous avons le devoir de nous unir. Nous devons retrouver notre belle boulangère, non pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle représente notre pain quotidien. Elle n'est certainement pas loin. Les coupables sont partis ce matin de bonne heure. Et le cheval qui m'ont renvoyé n'avait pas fourni une longue course. Et vous savez que je m'y connais.
Oui.
Si nous organisons immédiatement nos recherches, nous l'aurons retrouvé avant ce soir. Commençons donc dès aujourd'hui notre croisade pour la belle boulangère.
D'accord, nous irons tous.
Et maintenant, notre ami le boulanger, si douloureusement éprouvé par cette fugue, mais qui sera consolé avant ce soir, va à son tour vous dire quelques mots.
Mesdames, messieurs, je ne parlerai pas aussi bien que monsieur le marquis, parce que je ne pourrai pas, j'en suis incapable. Et puis, je me trouve dans une situation tellement critique que je ne ferai pas un beau discours. En plus, je suis gêné par cette lampe qui est au-dessus de ma tête, parce que j'ai peur, si je remets trop, de la casser d'un coup de corne.
Vas-y, boulanger, vas-y!
On t'aime bien, boulanger, vas-y, va!
Je vous demande pardon si j'ai pas fait de pain aujourd'hui. C'est à cause du doute où je suis. J'ai plus la tête à moi. J'avais peur de vous fabriquer du pain avec de la sciure ou de vous pétrir des brioches à l'eau de Javel. Mais si vous me ramenez mon Aurélie, alors là, vous aurez un vrai boulanger. Je vous ferai un pain comme vous avez jamais vu. Un pain qui sera si bon qu'il ne servira pas d'accompagnement pour autre chose. C'est un pain qui sera un délice, un régal pour les gourmets. Vous ne pourrez plus dire « j'ai mangé une tartine de fromage sur du pain ». Vous direz « j'ai mangé une tartine de pain sous le fromage ». Je pétrirai 5 kilos de pain tous les jours pour les pauvres. Et dans chaque pain que vous aurez, il y aura une grande amitié et un grand merci.
Bravo, 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 bravo.
très bien, Blanche.
Autre notable, l'instit qui ne l'ouvre pas et le curé qui prêche pardi pour sa paroisse et tente de rassembler ses ouailles avant toute action dans la garrigue.
Mesdames et messieurs, après les discours que vous venez d'entendre, je n'ai plus rien à ajouter, sinon que je souhaite le succès le plus complet à l'expédition qui se prépare. Et maintenant, mes chers amis, j'avertis les croyants qui sont nombreux dans cette assemblée. Il est 3h05 et les vêpres vont commencer.
On va aux vêpres ?
Ah non, 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 non.
Faut dire que la loi de 1905 n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. D'ailleurs, Pagnol ne l'était pas.
Ton pauvre oncle ne laisse que des regrets.
C'est à peu près tout ce qu'il laisse, d'ailleurs.
Le pauvre, il aurait été si content de venir à mon centenaire.
Parce que vous allez être centenaire ?
Eh oui ! La municipalité va me faire une petite fête. Tu devrais venir.
Monsieur Martinez et Michel Serrault, ça ne vous dit rien ? Et le jeune Noël, Claude Brasseur, est le dernier opus de la famille Galipo qui a acheté, voici bien 40 ou 50 ans, la maison à Saint-Tropez de Monsieur Martinet, en viager. Toujours rien. Allez, je vous laisse à la petite cérémonie avec le député maire, alias Bernard Lavalette.
Allez, Monsieur Martinet, faites semblant de souffler les bougies.
Ah ! Mais pourquoi semblant ? Ah ben alors !
Bravo. Je lève mon verre à la jeunesse. À la jeunesse éternelle, à Louis Martinet, le doyen de mes électeurs.
Monsieur le député, un sourire.
Et oui, le viager de Pierre Tchernia, avant que ne déboule Gérard Depardieu et Jean Richard.
Un artiste est un citoyen qui vit dans un pays qui, on l'espère, paye ses impôts, donc pourquoi il devrait fermer sa gueule ?
L'acteur et écrivain Philippe Torreton dans On a du nouveau sur Nouveau 19 le 10 mars dernier.
Il n'est pas obligé de l'ouvrir, mais pourquoi il serait obligé de la fermer ? Si à un moment donné, il y a un sujet qui le taraude un peu, bah, qui s'exprime, moi je trouve ça très bien. Les propos où il ne s'engageait pas, mais ce que disait Pierre Ninet sur l'importance du vote, etc., sur les choix qu'on doit faire, c'est vachement bien de dire ça dans la position où il est. Parce qu'il n'appelle pas à voter pour quelqu'un. Il dit juste que, oui, ce n'est pas anodin. Si on veut avoir un enseignement de qualité, si on veut avoir un service de santé, un monde culturel qui continue d'exister malgré tout, voilà, il y a un bulletin de vote. Sachez pour qui vous votez.
Allez, un grand écart. Après De Funès et Carmet, tout oui à leur maire.
Oh, tout ça, monsieur le maire, que l'on qui vous amène. C'est pas des ennuis, au moins.
Ah non, ça serait même plutôt des bonnes nouvelles.
Oh, attendez, attendez.
Faut que je vous explique la situation telle qu'elle est. Vous savez peut-être pas, vous qui êtes loin du bourg, mais ce qu'il faut à la commune, c'est une expansion économique. Ce qui manque dans tous les villages français, c'est l'expansion économique. Et qui plus est, une expansion économique génératrice d'emplois. Ça, c'est un truc qui n'existait pas dans votre jeunesse.
Il y avait une chose qui était essentielle, en tout cas dans sa trajectoire de metteur en scène, c'est qu'il voulait faire un film politique. À l'époque, il était très écologiste. Il l'a toujours été, d'ailleurs. Et c'est son seul film politique, et son dernier, et son premier, et son dernier. Il le revendiquait comme tel.
Pascal Grégory évoque Éric Rohmer, avec qui il tourna « L'arbre, le maire et la médiathèque », sorti en 1993. Documentaire produit par Potemkin.
J'ai un grand ami qui avait ce château un peu délabré, et qui était, parce qu'il n'est plus, qui était maire du village. Et donc, je l'ai lui présenté, et à ce moment-là, ça a germé dans son esprit. Et puis, on a tourné là-bas, dans ce château, qui était, donc, dans l'histoire, ma demeure. Et je suis maire du village.
Encore un homme, châtelain et maire. Il a un opposant à son grand projet en la personne de Fabrice Lucchini.
Que c'est beau. Ils veulent détruire ça. Mais qu'est-ce qui leur prend ? Ils sont devenus fous ! Ou c'est moi qui suis fou ? Je photographie, bon, et après, qu'est-ce que je ferai de la photo ? Je la regarderai quand tout sera démoli. J'en aurai pas le courage. C'est comme si je photographiais quelqu'un sur son lit de mort. Mais qu'est-ce qui leur prend, bon Dieu? Qu'est-ce qui leur prend?
Oh, mais qu'est-ce qui te prend, toi aussi? Je t'ai jamais vu aussi violent.
Ah ben, je suis pas violent en général, mais là, je le suis. Je le suis extrêmement. Je me sens capable de tout. C'est mon point sensible. Je pourrais faire n'importe quoi, même tuer. Il y a des types qui flinguent des mômes parce qu'ils ont un peu crié. Moi, c'est les architectes. Tu vois, le jour où les ouvriers viendront donner leur premier coup de pioche, si j'avais une mitrailleuse...
Oh, tais-toi!
Quoi, tu as peur? J'ai pas de mitrailleuse.
Mais il y a des choses qu'on ne dit pas.
Quelqu'un a dit, c'est pas moi, il faut supprimer la peine de mort, sauf contre les architectes.
Mais ce n'est pas la faute de l'architecte, c'est plutôt celle du maire.
Non, mais de la part du maire, c'est normal, c'est un politicard. Mais un architecte devrait être un homme de goût.
Mais attends avant de juger. Le projet est sans doute très respectueux du type.
Respectueux, tu as dit le mot. Mais c'est ça qui est grave. Au nom du respect, on peut tout faire. On justifie le pire vandalisme. J'aurais mieux aimé qu'on construise une tour en béton, un hangar en tôle ondulée, là les gens auraient pu se révolter. Mais voilà, c'est respectueux. Alors on peut rien faire, on peut rien dire, c'est le moindre mal. Mais pourquoi le mal? Pourquoi pas le meilleur bien?
Et le mal, c'est l'idée, c'est le maire.
D'accord, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que les architectes qui ont fait les beaux-arts, qui ont étudié la peinture, n'aient pas vu que c'était là un site intouchable. Ils oseraient pas approcher leurs petits doigts d'un tableau de Ruisdael de peur d'écorcher la peinture, mais ils ont pas peur de venir saccager à coups de bulldozer un paysage qui est digne, et je pèse mes mots, des plus grands chefs-d'œuvre des maîtres hollandais.
Écoute...
Que c'est beau, mais que c'est beau, tu te rends compte? Comment ose-t-on y toucher, je veux dire?
C'est pas une œuvre d'art.
Si, si, un site est une œuvre d'art. Peut-être pas autrefois, quand des paysages plus sublimes les uns que les autres naissaient à chaque détour du chemin, mais maintenant qu'ils se font rares, il faut les conserver tous. Je dis bien tous. Tu vois ce paysage ici avec le pré, le ruisseau, l'arbre, le village, l'église au fond, c'est à la fois l'œuvre de la nature et celle de l'homme. Et ceux qui ont délimité ce terrain, bâti ces maisons, planté cet arbre, même si leurs noms ne sont pas dans le dictionnaire, ce sont des artistes. Les paysans autrefois étaient des artistes. Beaucoup plus artistes que monsieur l'architecte DPLG.
Tu sais, en principe, cet arbre, il doit rester.
Que tu crois, on abat toujours les arbres. On dit qu'on les conserverait sous un prétexte quelconque. En une heure, hop, on les abat, ni vu ni connu. Il y a toujours une bonne raison. Les accès, les canalisations, les lignes électriques, la vue qu'il bouge, comme si la plus belle vue n'était pas celle d'un arbre.
Mais même si cet arbre reste, comme je l'espère. Il est vieux, on sera obligé de l'abattre un jour.
Eh bien, un autre le remplacera. Si on faisait comme autrefois, on prévoirait de planter les arbres à l'avance pour les générations futures. Et comme dans les fables de La Fontaine. Un octogénaire plantait, passe encore de planter, mais bâtir à cet âge. C'est le contraire, passe encore de bâtir, mais planter à cet âge. Non, je vais te dire ce qui va arriver. Admettons que le bâtiment soit acceptable, respectueux comme tu dis. Admettons qu'ils se fondent dans le paysage, admettons tout ce que tu voudras. Ce qu'on nous montre là, ce n'est que la partie apparente de l'iceberg. Mais on nous cache tout ce que la partie, la construction va entraîner et qui sera mille fois plus apparent.
Tu veux dire les accès?
Oui, les accès. Justement les accès. Accès aux autoroutes, accès aux parkings, accès aux ascenseurs. La France est défigurée par les accès. Tu penses bien que 200 bagnoles vont pas venir là tous les soirs sans savoir où se garer?
Mais tu sais, il n'y en aura pas 200, et ce ne sera pas tous les soirs.
Ah non, mais tu oublies que le maire a la folie des grandeurs, il veut faire venir ici tous les théâtres de Paris. En fait, ce sera un bide, mais on aura quand même prévu 200 bagnoles. Peu importe qu'elles viennent, on aura prévu. Alors, faudra bien trouver une place. On fera ce qu'on appelle, euphémiquement, un parc, par respect pour le bon français, dans un site classé. Alors, on le prévoira d'abord souterrain, on abattra l'arbre pour permettre l'accès. Et alors on s'apercevra que le sol est pourri. Alors, on fera un parking à ciel ouvert, avec peut-être quelques arbustes maigrelets plantés en rang d'oignons, et comble de l'horreur, des arbres rouges, rabougris, tu sais, ces espèces de prunus, même pas rouges, d'un violet sinistre, couleur de cadavre. C'est à croire que ces gens-là ont une fascination de la mort. C'est la mort qu'on nous promet. Ce sera ma mort. Si je n'ai plus mon arbre en face de moi tous les matins, je partirai, je ne pourrai plus vivre ici.
Nous vivons tous à la campagne,
parmi les champs et les prairies.
On pourra rester en Bretagne,
en Provence ou en Normandie,
tout en étant chef de bureau, comptable ou informaticien. Plus besoin d'aller au boulot.
Avec la voiture ou le train, nous serons toujours en vacances, tout en produisant d'abondance. Quelle chance
d'avoir trouvé la solution
pour les nouvelles générations.
Tout ça s'est concordé d'une façon extraordinaire parce qu'il était, très féru de plantes et de plantes, je dirais, rares et surtout de plantes en voie de disparition ou de fleurs en voie de disparition. Il se trouve que là-bas, d'ailleurs j'ai le petit texte là que j'ai retrouvé, c'est rigolo. Vous voyez là-bas, il y avait dans cette région, dans la plaine de Luçon, voilà, c'était dans la plaine de Luçon, il y a un microclimat. Et qui était une sorte de microclimat, qui est même le même ensoleillement en fait que la Côte d'Azur. Donc il y a des fleurs qui sont là-bas et qui sont nulle part ailleurs. Et il y a une fleur dont Eric était fou. Il adorait et on la revoyait. Et moi, bêtement, tout d'un coup, je me disais, tiens, je vais l'accueillir. Non, il hurlait en disant, surtout ne cueillez pas cette fleur. Elle s'appelle la fritillière pintade ou la fritillière à damier. Je pense qu'on en parle peut-être dans le film, je ne sais pas très bien. Alors c'est une fleur, et je vais même dessiner le petit dessin. On voit le petit dessin. Et c'est une fleur interdite à cueillir, d'après un décret ministériel, car en voie de disparition. Donc ça le branchait complètement. Il adorait ça.
Alors j'ai cherché, vérifié, la fritillière à damier n'est pas une orchidée. Vous savez que la plupart des orchidées sont protégées en France, c'est-à-dire on ne les touche pas, on ne les cueille pas, on ne les déplace pas, on ne les replante pas chez soi. De toute façon, ça ne marcherait pas beaucoup. Donc c'est protégé par arrêté ministériel ou départemental le plus souvent. Là, la fritillière à damier ou pintade est une liliacée, donc cousine des amaryllis, des asperges et des jacinthes. Le maire est accosté par la fille de Lucchini. Elle a 10 ans et déjà une sacrée rhétorique.
Ah, tu veux parler pour toi en ton nom personnel, hein? Bon, alors viens, on va s'asseoir. Qu'est-ce que vous avez à dire, mademoiselle?
D'abord, parce que je ne suis pas du tout à fait d'accord avec papa.
Ah!
Je trouve qu'il est trop pessimiste.
Alors donc, ça veut dire que tu es pour le projet?
Non, encore moins que lui.
Moins que lui, ça me paraît difficile, il est totalement contre.
En parole, mais il laisse faire. Moi, je veux me battre.
Contre moi?
Contre tout le monde et contre personne.
Et de quelle façon?
En discutant. Vous dites que vous êtes pour la discussion. Vous n'êtes pas trop pressé?
Ah bah non, j'ai du temps, j'ai quelques minutes, ça va pas durer des heures.
Non, c'est très court.
Alors je t'écoute.
Voilà, je trouve que ce projet n'est pas tellement nécessaire.
Bon, alors là, je t'arrête tout de suite. Ce serait quand même formidable d'avoir une piscine à deux pas de chez toi. Tu seras pas obligé d'aller faire 5 km pour aller nager.
Ça fait une petite balade à vélo, c'est pas indispensable qu'elle soit tout près.
Bon, et la médiathèque, ça ne t'intéresse pas non plus?
D'abord, elle est trop grande, et puis elle est tellement moche.
Et la vidéothèque avec une dizaine d'écrans télé, tu pourras voir des films qui passent jamais à la télévision.
Moi, je trouve que c'est complètement idiot de détruire ce pré pour y mettre quelque chose qui serait aussi bien ailleurs. Dans le village, il y a des maisons qui sont à vendre pour presque rien.
Je vais te dire quelque chose que tu ne sais certainement pas. Il est beaucoup plus facile de trouver de l'argent pour construire du neuf que pour restaurer de l'ancien. J'ai obtenu un financement pour un programme cohérent. J'aurais pas pu obtenir cet argent pour des opérations isolées ou ponctuelles. Bon, pour des raisons que je peux pas t'expliquer car ce serait trop long, le ministère de la Culture a été intéressé à ce projet parce que justement il regroupait des activités.
Moi, je ne suis pas d'accord. Le ministère se trompe. C'est complètement idiot de vouloir toujours tout grouper. Et en plus, ça ne sert à rien. Puis, je ne vois pas du tout pourquoi on met un théâtre. Il y a déjà une salle des fêtes à Saint-Juir, n'est-ce pas?
D'accord, mais c'est un hangar.
Et bah, on peut l'aménager.
Ça coûterait très cher, hein, que ce soit propre. Il faut quand même inciter les troupes théâtrales de Paris à venir dans un lieu qui ne soit pas inconfortable et sans acoustique.
Et en plein air, c'est mieux?
Mais bien sûr, il n'y a pas de réverbération. Tu sais, c'est comme un théâtre à l'antique, comme à Arles ou à Orange. Tu connais?
Mais s'il pleut.
Mais enfin, il pleut pas toujours.
Ici, il pleut souvent, plus que dans le midi.
Mais vous êtes vraiment pessimiste, hein, vous aussi.
Mais non, mais je trouve que c'est complètement idiot de détruire un pré pour y mettre quelque chose qui serait aussi bien ailleurs.
Le pré a été cédé à la ville. Il faut bien en faire quelque chose. Bon, alors, en ce moment, il y a des vaches, mais l'année prochaine, il n'y en aura plus. Qu'est-ce que vous y mettriez?
Moi, j'ai une théorie, mais vous êtes mal placé pour me comprendre.
Mal placé, mais pourquoi?
Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui manque au village encore plus que la médiathèque.
Mais quoi?
Des espaces verts.
Des espaces verts? Mais enfin, les espaces verts, il y en a partout! On est entouré d'espaces verts, on est à la campagne.
Justement, il y en a dans les villes, mais pas dans les campagnes. Vous, vous avez votre parc. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont à part leur tout petit jardin? Quand je lis les histoires d'autrefois, je vois que les enfants allaient jouer dans les prés, qu'on pouvait cueillir des fleurs, chasser les papillons et les coccinelles. Maintenant, tout est clôturé avec des barbelés. Et puis, de toute façon, si on réussit à entrer, il y a des chiens qui vous courent après. Alors pourquoi les gens qui ont des enfants iraient à la campagne s'il n'y a plus de prés, ni de champs, ni de bois, il n'y a plus rien?
Non, mais c'est pas si sot ce que vous dites. C'est même pas sot du tout. Mademoiselle. Mais enfin, il y a quand même des bois, pas loin d'ici.
Mais il y a quand même 5 kilomètres.
Eh bien, ça fait une petite balade à vélo. Non, j'ai pas envie de te taquiner. Mais voilà, ce qui est fait, et crois-moi, ce qui est fait, est fait. La médiathèque va être construite, le projet est en cours. Mais cela dit, globalement, votre revendication est tout à fait légitime. Et je vous félicite d'avoir pensé à quelque chose à quoi on ne pense jamais assez. Bon, c'est vrai, il est certain que si à l'avenir, bon, les prés et les champs disparaissent, mais il va bien falloir en transformer une partie en surface de jeu, non? Dans ce domaine, l'optimisme est de rigueur, l'avenir va dans votre sens, et sous peu, il va y avoir des prés qui se vendront pour une bouchée de pain, et qu'à ce moment-là, on pourra transformer en zone de loisirs, pour les petits, pour les grands, mais en tout cas, c'est très bien de m'avoir fait part de votre suggestion. Cela dit, ça n'affirme pas ma position, mais ça va dans le sens du projet municipal, elle le complète. Elle en sera la suite. En tout cas, je trouve ça formidable de ne pas avoir eu peur de m'en parler. Je trouve ça très bien. Et quel âge as-tu?
10 ans.
Ah ben dis-moi, à 10 ans, je crois pas que j'aurais pensé de telles choses. En tout cas, je n'aurais pas parlé à une grande personne. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Je ne sais pas.
Ben, tu as tout le temps d'y penser. En tout cas, si tu vois ton père, tu lui dis que je suis à son entière disposition pour parler de la médiathèque, pour parler de la piscine, pour parler de l'arbre, hein. Voilà, bon, je vous laisse, à tout à l'heure.
Au revoir.
Eh bien, dans ce cas, le week-end, les jours de fête et les congés, au lieu de s'envoler pour l'Inde, pour Caracas ou pour Tanger, ou bien de rouler vers Deauville, trifouiller les oies ou Bécon, on ira retrouver la ville, son macadam ou son béton. Nous savourerons ses plaisirs, ce sera notre vrai loisir. Quelle chance d'avoir trouvé la solution.
C'est avec Homer, l'arbre, le maire et la médiathèque, et même un peu d'Ariel Dombasle qui joue dans le film, que va se clore cette 13e visite de la saison 9 du Panthéon décousu. Cette visite est rediffusée dans la semaine et très bientôt disponible à la réécoute libre et le podcast sur plein de plateformes et le site de l'émission Le Panthéon décousu sur radioalpa.com. Mais ne nous quittons pas sans musique et cette chanson signée Paroles et Musique de Sébastien Helms, alias Eric Rohmer et sa compagne. C'est la chanson pour le film de conte d'été qui se passe dans une rade de Bretagne. Juste avant, n'oubliez pas de voter ce dimanche en votre conscience et pour la vie démocratique, que ce soit pour un maire ou pour une mairesse. Valérie, mairesse, dans L'une chante, l'autre pas, d'Agnès Varda en 1977, excellent cru. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, ne vous laissez pas voler la parole citoyenne. Allez voter.
Je serais mignonne si je fais ce que vous voulez. Gna gna, café, les horaires, les règles. Vive la famille et l'ordre.
Tout ce qu'on te demande, c'est d'avoir un peu d'égard pour les parents qui t'ont mis au monde et qui t'élèvent.
Je vais pas demander à venir au monde. Pauline, surtout que vous auriez été incapable de m'éviter.
Ça, tu l'as cherché, hein. C'est pas parce que t'es en philo que tu vas nous insulter.
Ben vas-y, régale-toi, profites-en. Parce que tu sais, hein, t'en as plus pour longtemps l'autorité sur moi.
Arrête, Pauline.
Elle s'écoute parler.
vite mon joli bateau. Il ne sera jamais trop tôt pour voguer vers San Francisco en passant par Valparaiso et gagner les Aléoutiennes en traversant les mers indiennes. Il faut que j'aille au bout du monde pour savoir si la terre est ronde.
Il ne sera jamais trop tôt pour voguer vers San Francisco en passant par Valparaiso et gagner les Aléoutiennes en traversant les mers indiennes. Il faut que j'aille au bout du monde.